Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à tous et à toutes, Florence Westergaard pour vous présenter ce podcast. Cette semaine, nous irons en France, à Argenteuil, dans la banlieue de Paris, pour rencontrer l'équipe du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Avec Rudy Cohen, médecin et chef du SMUR d'Argenteuil, nous verrons comment ces équipes se sont préparées à l'arrivée du coronavirus, mais aussi comment elles font face chaque jour à ce grand défi. Restez à l'écoute. Il y a encore quelques semaines, on avait envie de croire que tout était normal. Aujourd'hui, 180 pays et territoires ont été touchés et le nombre de contaminations a dépassé le cap des 1,2 million. En France, on compte plus de 109 000 cas de Covid-19 avec plus de 10 000 morts. Le service d'aide médicale urgente, encore connu sous le nom de SAMU, organise le traitement des urgences et est la pierre angulaire de la gestion de la crise sanitaire dans le pays. Grâce à son centre d'appel, il dispatche des équipes mobiles d'urgence et de réanimation, les SMUR. Le docteur Rudy Cohen, 40 ans, est chef du SMUR au centre hospitalier d'Argenteuil depuis 2014. Avec ses trois équipes, 24 heures sur 24, il porte secours aux patients dont l'état nécessite une surveillance ou des soins médicaux d'urgence.
Donc nous, on est à l'hôpital d'Argenteuil, c'est une ville de banlieue parisienne qui a une densité de population assez forte, qui est la troisième densité de population de l'Île-de-France. Et sur le Val-d'Oise, il y a cinq centres, donc il y a cinq SMUR et un SAMU. Donc le SAMU, c'est la réception des appels, c'est le centre 15. Et donc c'est le SAMU qui nous donne nos missions. Voilà. Donc nous, on est basé sur Argenteuil, mais on intervient sur tout un secteur avec les départements avoisinants. On a un secteur de premier recours et puis en fonction des besoins, on va dans les autres secteurs à droite à gauche. On a deux types de missions. On a des missions qu'on appelle primaires, qui sont des missions à domicile, sur la voie publique. Donc c'est des patients qui sont repérés par le SAMU comme étant en situation de détresse vitale. Mais pas seulement. Ça a changé puisque à la création du SAMU, c'était plutôt les accidents de la route. Aujourd'hui, c'est essentiellement de la médecine, hein, c'est de la cardiologie, de la pneumologie. Et puis, il y a aussi des urgences non vitales. Il y a des urgences douleurs, par exemple, un traumatisme, une fracture ouverte. On fait des gestes pour pouvoir transporter les gens. On a des prises en charge aussi palliatives à domicile. Donc voilà, il y a des situations parfois à domicile qu'il faut gérer, et puis des fois c'est des problèmes sociaux. Et une deuxième partie des missions, c'est les missions de transfert. Si l'établissement de soins nécessite un transfert médicalisé sur un patient qui a une pathologie assez lourde, il est transféré via le SAMU vers une réanimation par exemple, ou vers une filière de soins critiques. Et puis parfois, les établissements de santé qui nous appellent, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de service d'urgence. Donc, ça s'apparente un petit peu aux premières missions qui sont d'intervention de premier recours.
Donc, depuis que la crise a commencé, comment vous arrivez à gérer cette crise et comment vous arrivez avec toutes les personnes qui sont dans l'équipe à Argenteuil? Comment ça se passe exactement?
Alors, Argenteuil, c'est une petite équipe. Il y a deux unités qui sont opérationnelles H24 et chaque unité compte un médecin, une infirmière, un ambulancier. Certaines infirmières sont spécialisés en anesthésie et d'autres pas, mais voilà, on est 14 médecins, on a 10 infirmiers et une dizaine d'ambulanciers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les crises sanitaires comme celle-ci, les situations, ce qu'on appelle les situations sanitaires exceptionnelles, ça fait entièrement partie de nos missions. Ça avait été le cas en 2014 au moment de la crise Ebola. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan et de Paris en 2015. Chaque année, on a les patients qui reviennent du Hajj qui ont le MERS-CoV, qui est aussi un coronavirus. Donc ça fait partie entièrement de nos missions. C'est un peu une des composantes du bouclier sanitaire de la France. Donc on est amené à intervenir régulièrement. Donc on a vu un peu venir les choses. Donc on s'est dit il fallait quand même se tenir à jour. Il fallait surtout s'informer. Il fallait surtout diffuser l'information, essayer d'être transparent au maximum. Et puis bien définir quelles étaient nos missions dans ce cadre-là. Voilà, quelle était la gravité des patients, quel type de patients on allait rencontrer. Donc c'était surtout dans la préparation de l'événement, quoi.
Et justement, avec cette crise et dans la préparation, donc chaque jour, vous avez combien de patients avec le virus? Combien vous en traitez?
Alors, donc on est deux équipes Et là, depuis le début du confinement, on a créé une troisième équipe qui est 24 heures sur 24. Cette troisième équipe s'est mise à travailler au même rythme que les deux premières. Donc, d'habitude, il y a une espèce de petit train-train, il y a environ une dizaine d'interventions par jour. Donc là, on est passé à plus d'une vingtaine, une trentaine. On a senti une augmentation. Mais on a pu faire face à cette augmentation justement en créant une équipe supplémentaire. Mais ce qui se passe un petit peu partout, c'est que les patients dits conventionnels, c'est-à-dire... toutes nos missions habituelles, les infarctus, les accidents de la route, tout ça a disparu. Et aux urgences, c'est le même problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que finalement, l'activité a un peu augmenté, mais elle s'est surtout substituée par des patients atteints de coronavirus. On a vu, nous, à peu près sur nos trois équipes, une centaine de patients, ce qui est pas beaucoup, hein, parce que, comme je dis, on est vraiment missionné sur des patients en situation de détresse. Voilà, l'afflux aux urgences, eux, c'est 200 par jour qui voient... Il en va passer. Mais nous, on est passé de 10% ouais, au 15 mars à plus de 80% aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que des patients atteints de coronavirus, ou suspects en tout cas.
Et comment on se prépare justement avec ces patients? Vous avez un uniforme? Comment vous approchez
oui.
les gens justement?
Alors justement, donc, comme les situations font partie des missions, le personnel, lui, déjà, il est formé à la base. Il doit connaître les plans de secours, il doit savoir comment s'habiller, comment se déshabiller, connaître les grands principes, on va dire, des nombreuses victimes, le plan blanc de l'hôpital, un peu, donc ils doivent déjà connaître tout ça. La préparation, elle est beaucoup dans l'information. Il fallait vraiment faire comprendre aux différents personnels quels étaient, par exemple, les circuits. Est-ce que tel patient, il va aller à tel endroit? Est-ce que ce service, il accueille encore des patients conventionnels ou est-ce qu'il accueille des patients Covid? Voilà, donc il a fallu expliquer un peu tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a réuni nos deux services, qui sont le service des urgences et le SMUR. Et tous les matins, à 8h30, il y a le responsable des urgences qui fait un point. Et tous les matins, on a une présence. Et comme ça, on a tous les mêmes informations. On connaît les circuits, on évite voilà la cacophonie. En expliquant aux gens, en essayant de les rassurer au maximum, parce qu'il faut vraiment les rassurer. Et puis, il faut identifier, en fonction de quelle situation, quelle protection adopter, quelle attitude adopter et quelle filière prendre. Voilà. Donc c'était ça qui est le défi d'une bonne préparation, c'est ça. Par exemple, pour être un peu caricatural, on a deux situations. On peut nous dire, voilà, au téléphone, ce monsieur avait l'air d'être très mal, allez voir. Donc on va voir. Et puis on s'aperçoit que finalement, il est gêné par sa toux, il a de la fièvre, mais il ne présente pas de signe de gravité. Donc ces patients-là, si nous on leur met un masque chirurgical sur le nez et qu'on leur on applique des mesures barrières simples, il n'y a pas besoin d'être complètement protégé, c'est pas vraiment nécessaire. Il faut respecter quand même des mesures d'hygiène simples. Et à contrario, des malades qui vont nécessiter une intubation, une ventilation invasive ou des gestes, voilà, même un masque à oxygène à très fort débit, ça aérosolise en fait le virus. Et donc là, il nous faut une protection type FFP2, masque, charlotte, lunettes, gants, sur blouse et tout ce qui va avec. Et voilà, il a fallu bien faire comprendre que c'était des situations un petit peu différentes. Ensuite, bien comprendre quelle était la maladie. Au final, c'est des patients qui sont assez simples, entre guillemets. C'est des patients qui ont une détresse respiratoire fébrile, donc c'est le traitement d'une détresse respiratoire fébrile. Il n'y a pas de traitement spécifique, en tout cas pour le moment, et à notre niveau non plus. C'est-à-dire, comme c'est des prises en charge vraiment de tout début, c'est à partir de la réanimation où ils vont tester les molécules. Nous, on n'est pas encore dedans.
Quelqu'un vous appelle, vous d'abord vous leur parlez au téléphone et puis après vous y allez, ou comment ça se passe?
Alors justement, c'est cette régulation qui est au SAMU, qui est au centre 15, qui eux reçoit les appels et qui a une première évaluation par un médecin qui est faite à ce niveau-là. Et c'est ce centre de régulation qui nous missionne en nous prévenant un petit peu à l'avance, en disant voilà, il est suspect d'être atteint de coronavirus ou non. Et à ce moment-là, on sait à peu près vers quoi on se dirige. Et notre rôle principal, c'est surtout de les orienter. Parce qu'actuellement, le grand défi, c'est le défi des places de réanimation, qui sont de plus en plus rares, parce que toutes les places de réanimation sont prises très rapidement. Et ce sont des patients qui viennent en nombre, dans une durée qui est courte finalement. Il y a beaucoup de patients dans une durée qui est courte. Et c'est des patients qui vont rester 15 jours, 3 semaines en réanimation. Donc ils vont occuper un lit de façon un peu prolongée. Et donc on se retrouve dans une situation où on a des fois des détresses respiratoires à domicile avec des patients qui nécessitent des soins critiques, une filière critique. Et puis on n'a plus de place dans notre secteur. Donc c'est important d'être en accord avec la régulation, d'avoir une bonne communication pour qu'ils puissent nous trouver une place où emmener ce patient. Et puis parfois ça peut aller très loin. On a déjà changé de région à plusieurs plusieurs reprises. De notre Val d'Oise, on est parti à Rouen, on est parti à Chartres, on est parti à Amiens. On va de plus en plus loin, en fait, pour essayer de répartir les patients.
Oui, donc vous dites qu'il n'y a plus vraiment de place. Donc, vous emmenez les patients dans d'autres régions. Mais justement, comment vous voyez un peu la situation se développer? Parce que c'est, pour le moment, c'est toujours critique, n'est-ce pas?
Alors, pour le moment, on est en plein dans la vague. Je pense que c'est pas fini. Le défi est effectivement au niveau des places de réanimation, parce que nous, c'est ça, c'est la suite, c'est tous ces malades, on peut pas les garder dans le camion éternellement. Donc, on a besoin effectivement d'avoir des places, et il y a besoin surtout d'avoir une bonne régulation. Le Val d'Oise, où situe notre centre, fait partie des départements les plus touchés d'Île-de-France. Hein, c'est essentiellement le 93, la Seine-Saint-Denis, Paris elle-même, et le Val d'Oise. Après, les autres départements sont touchés également, mais pour l'instant, dans une moindre mesure. Et donc, comment je vois la situation, c'est qu'on va être encore, comme probablement dans le Grand Est, complètement saturé. Il reste encore des places, mais voilà.
Qu'est-ce qu'ils essayent de faire, justement, au niveau du Val d'Oise ou même de la région parisienne? Comment ça se développe?
Comme tout est une affaire de flux et de régulation, pour éviter que chaque département joue en solo, ils ont créé, grâce à l'ARS, une régulation régionale. Donc maintenant, ça, on a un visuel, plusieurs fois par jour, on reçoit un petit courrier et on a le nombre de lits, à la fois d'hospitalisation classique, c'est-à-dire non critique, d'hospitalisation en soins critiques sans ventilation invasive et des soins critiques avec ventilation invasive. Et donc maintenant, on commence à avoir une vue plus générale sur l'Île-de-France qui va permettre de mieux répartir les patients. Et puis, ils ont mis en place aussi un numéro avec cette fois un régulateur qui va gérer justement cette... Donc on est passé à un niveau plutôt régional parce que nous, notre département est complètement saturé. Du coup, il y a voilà, une régulation qui se fait pour pas arriver à des aberrations où on va emmener des patients dans un hôpital et puis en fait, cet hôpital ne pourra pas mettre ses propres malades dans son propre service de réanimation. Donc c'est bien que voilà, il y ait un visuel global sur toute la région.
Et au niveau du SMUR, est-ce qu'il vous manque des équipements? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Comment vous arrivez à gérer ça avec les trois équipes?
Alors, l'équipement, on l'a. L'équipement, il est suffisant à partir du moment où on fait pas n'importe quoi avec. Il y a évidemment des restrictions. Mais ce sont des restrictions qui sont nécessaires. Donc, sur l'établissement, ils ont mis certaines restrictions. Le matériel est donné de façon, on va dire, progressive. Voilà, c'est contrôlé pour éviter déjà la surconsommation, pour éviter le vol aussi, parce que malheureusement, il y a du vol. Donc, on protège un petit peu nos stocks, on ferme les bureaux, on ferme les réserves. Et puis, on essaie de se conformer du mieux possible aux recommandations nationales et internationales. Pour le moment, il n'y a pas de pénurie. On arrive à avoir le matériel. Et puis, on reçoit également des dons. On a reçu, il y a un don hier de l'association médicale franco-chinoise qui a fait un don sur l'île de France et puis on a reçu une partie de ce don pour nous aider un petit peu, ce qui est pas négligeable quand même.
Et sur l'équipe, qu'est-ce que ça crée? Ça crée beaucoup de stress? Comment l'équipe travaille? Est-ce que c'est difficile pour toute l'équipe?
Alors, l'équipe est parfois inquiète. Ils sont parfois inquiets pour eux-mêmes, mais je pense qu'ils sont surtout inquiets pour leurs proches. Mais ils sont déterminés et motivés. Et ça on peut pas leur enlever. C'est une inquiétude qui peut se comprendre par moment. Il faut avoir un discours voilà rationalisant. Il faut réexpliquer plusieurs fois les choses. Il faut surtout pas rentrer dans les polémiques, dans les difficultés. Mais bon, j'ai l'avantage d'avoir une équipe qui est quand même solide et qui est assez soudée. Mais voilà, ils sont motivés, ils sont présents et déterminés.
Et peut-être dernière question. Donc on a parlé un peu de comment vous voyez l'avenir dans un sens. Est-ce que vous avez un message pour les gens, pour justement qu'ils ne s'inquiètent pas, ou quelles recommandations vous leur donnez pour arriver à subir ce confinement et cette crise?
Il faut vraiment respecter absolument la règle du confinement. C'est primordial. Il ne faut pas céder à la panique. C'est facile à dire, hein, comme ça. C'est vrai que les messages sont très anxiogènes en général. Il y a encore des quelques semaines un peu difficiles à passer. On est tous inquiets. On est tous inquiets pour nos proches. On est tous inquiets pour nos enfants. On fait tous au mieux. Il faut être confiant dans l'avenir. Et puis, le message est un petit peu le même pour les professionnels. C'est-à-dire que je pense qu'il faut essayer de vraiment faire confiance à nos scientifiques, à nos médecins, à nos chercheurs, à nos réseaux de santé, à nos agences de santé. Voilà, il faut essayer de se conformer le plus possible. Il faut qu'on essaye vraiment d'agir comme un tout et comme un organisme qui se défend lui-même finalement. Et puis on s'en sortira. Voilà.
Et c'est avec le docteur Rudy Cohen, chef du SMUR au Centre hospitalier d'Argenteuil, que se termine notre podcast Escale. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sauvent des vies et nous protègent. Vous pouvez retrouver ONU Info et tous nos programmes sur notre site internet, Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.